Les sujets qui font l'actualité des dernières heures. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Jérôme.
On va commencer avec cette première information. C'est une nouvelle qu'on a appris en partant au week-end. Salah Abdeslam a été arrêté et il paraît qu'il était prêt à refaire quelque chose à Bruxelles.
On parle également de Bernard Cazeneuve qui annonce le déploiement de forces complémentaires aux frontières.
Et le gouvernement qui veut renforcer la prévention de la radicalisation.
Et cette question du jour, l'arrestation de Salah Abdeslam, est-ce que cela vous rassure?
Vous n'hésitez pas donc à venir nous rejoindre sur la page Facebook officielle Laurent FM pour répondre à cette question. Vous pouvez le faire également au standard 03 82 21 04 04. Ce numéro est accessible jusqu'à midi, c'est votre libre antenne. Vous pouvez vous exprimer sur ce que vous entendez sur notre antenne et ce jusqu'à midi. Ne perdez pas de temps, on écoute Marina Kaye tout de suite avec Phrase Your Out. C'est pour le premier hit de ce Pour ou Contre et on vous attend en compagnie de Bérangère Thomas qui est avec nous, donc conseillère municipale à la ville de Metz.
Pour ou Contre, tous les jours, 11h midi sur leur FM.
Il est 11h04 en ce lundi matin. Bérangère Thomas, conseillère municipale à la ville de Metz, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là avec nous pour les 60 prochaines minutes. On va commencer avec ce premier sujet. Après les attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam a été arrêté et il était prêt à refaire quelque chose à Bruxelles.
Les premiers commentaires venant de Salah Abdeslam samedi étaient qu'il voulait aller au Stade de France et qu'il allait se faire exploser, mais il ne l'a pas fait. Et l'autre information est qu'il était prêt à refaire quelque chose à Bruxelles, ce qu'a déclaré le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders.
Il a été inculpé de meurtre terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste. Ça, c'est pour la justice belge. On ne sait pas encore comment ça va se passer en France, même si on a une petite idée de toute façon. Déjà, dans un premier temps, l'arrestation de Salah Abdeslam, c'est un ouf de soulagement, et notamment, on pense aux victimes.
Oui, tout à fait. Déjà, première chose, c'est la pensée aux victimes, hein, des personnes qui n'avaient rien à voir dans l'histoire et puis qui se sont retrouvées, pour certains, handicapées encore dans des problèmes de survie, hein, des situations extrêmement graves au niveau personnel et au niveau individuel. Alors, c'est une bonne chose que cette arrestation ait lieu. Ça veut dire aussi que la pression était toujours maintenue et qu'il faut toujours justement avoir cette vigilance et cette tolérance zéro, parce que s'il n'avait pas craqué pour cet attentat qu'il avait prévu de faire,
de passer à l'acte.
Voilà. Et en plus, dans un stade, avec la panique, avec toute une conséquence collective, hein, parce qu'à s'attaquer à un stade, ça veut dire qu'à la fois, il y a l'acte de tuer des gens, mais après, il y a la réaction en chaîne de panique du public. Et on peut imaginer vraiment une immense catastrophe. Alors, l'autre chose aussi, c'est que c'est une vigilance qu'il faut avoir, parce qu'effectivement, que ce soit en Belgique ou en France ou dans d'autres pays qui subissent le terrorisme, il y a une vigilance à la fois européenne et internationale. On doit être chacun sur nos gardes, en fait. Hein, c'est pas parce que ça s'est passé en Belgique qu'il avait prévu de faire des choses que demain il peut pas y avoir quelque chose.
D'ailleurs, le président de la République, je crois que c'est à travers Bernard Cazeneuve, si je dis pas de bêtises, l'a bien dit, hein. On est encore plus en situation de danger, entre guillemets, face au terrorisme que maintenant.
Tout à fait.
Il y a encore même.
Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont latentes, hein, quand il y a aussi des fois des stratégies d'avoir un point de mire quelque part, mais en fin de compte, préparer autre chose ailleurs, hein. Donc, c'est une stratégie un petit peu de joueur quelque part, hein. Je pense que les gens qui font des jeux en réseau le savent tout à fait bien comment on peut simuler une attaque et en fin de compte, il y a quelque chose d'autre qui se prévoit. Donc, on est effectivement dans une situation d'urgence, mais en même temps, les trois propos que vous m'avez soumis ce matin, alors pouvait-on prévoir, alors c'est toujours difficile de dire après coup qu'on pouvait prévoir quand il y a le jeu de l'histoire qui se monte d'une certaine manière, mais c'est évident que là, si on en revient à dire qu'une frontière est utile, hein, parce qu'une frontière c'est à la fois un espace physique, mais aussi un espace moral, quand on arrive à très clairement mettre, faire respecter des lois, des règlements, et qu'on a des usages qui sont physiquement et moralement contrôlés, c'est évident, hein, qu'on a une manière de filtrer les individus et surtout quand même d'avoir cette obligation, cette honnêteté de respecter ce qui concerne l'intérêt général et surtout la sûreté publique, parce que c'est tout de même ça qui est mis en cause, entre des personnes qui sont des victimes innocentes et les gens qui peuvent penser être à la tête de ce type d'attentat.
Alors, deux choses qu'on peut souligner face à cette arrestation. D'abord, le travail main dans la main des forces de l'ordre belges et françaises,
oui,
qui ont été d'une efficacité redoutable. Hein, 100 et quelques jours de cavale pour...
130.
Voilà. 130 jours de cavale pour Salah Abdeslam. Finalement, on l'a attrapé. Ça a duré 50 minutes, cet assaut. Ils étaient sur la trace. On nous a fait croire qu'on ne savait pas où il était. Mais finalement, et heureusement d'ailleurs pour les biens de l'enquête, vaut mieux des fois qu'on ne...
Voilà, c'est le droit de réserve et la discrétion.
Exactement.
Parce que la publicité, souvent, ne fait pas forcément de bien. Alors, c'est vrai qu'il y a eu aussi des images portraits robots qui étaient diffusées, que la police, en tant que telle, c'est quand même un réseau qui doit être très discret, et puis des choses qui sont des indications, des informations. On sait très bien que les choses sont un petit peu comme un labyrinthe, hein. Il faut être extrêmement patient. Le moindre indice peut être révélateur, et je pense que dans ce cas-là, c'est vraiment tout un réseau, toute une organisation internationale qu'il faut démanteler. Donc, la tâche n'est pas facile du tout.
Autre chose aussi, c'est Interpol qui s'est prononcé ce week-end et qui a dit attention, on a arrêté Salah Abdeslam, surveillez quand même vos frontières, qu'on n'ait pas d'autres suspects qui s'échappent. Et c'est vrai que c'est finalement, entre guillemets, le danger maintenant, c'est avec l'arrestation de Salah Abdeslam, qu'on le veuille ou pas, on a fait un coup fort, on a tapé.
C'était une des têtes de toute façon.
Voilà, exactement. Donc tout le réseau qui va autour et qui est plus léger, entre guillemets, que Salah Abdeslam, même s'il reste tout autant dangereux, oui. Eh bien, c'est quoi la première solution? C'est de dire, mince, s'ils ont remonté jusqu'à une des têtes pensantes de ces attentats, il faut qu'on fasse gaffe et que tout le monde, finalement, fuit le continent européen.
Alors, ce qui est assez révélateur et humain, c'est qu'en fait, on peut dire qu'il est craqué, puisqu'il n'a pas été jusqu'au bout de son acte.
Il a même été d'ailleurs dénoncé par un ami, c'est ce qu'on a entendu.
Alors, voilà, donc, toutes ces personnes-là sont tout de même des êtres pensants quelque part, hein, même s'ils sont impliqués dans quelque chose de collectif, dans une organisation qu'il les fait tout de même des gens, bon, très clairement dit, manipulés. Hein, on espère, il y a toujours une faille humaine quelque part. Hein, quand on a un accident ferroviaire, quand on a des... La faille humaine est toujours possible. Donc, l'enquête, généralement, est patiente et on attend toujours cette faille humaine pour que, justement, les choses puissent être dévoilées.
Alors, il y a cette question du jour, on la rappelle, Gaëtan.
L'arrestation de Salah Abdeslam vous rassure-t-elle ?
Eh bien, Kathleen nous dit, c'est bien pour l'enquête de Paris, je pense, pour les familles des victimes, mais je pense également que ce n'est pas fini, malheureusement, c'est un petit peu le sentiment. C'est ce que donne Émilie également, hein, comme opinion. Nadège nous dit non, vu comme ils ont arrêté le mec, et en plus à 400 mètres de là où il se trouvait au début, ça me fait peur. Mais je pense pas qu'ils aient vraiment perdu longtemps la trace de Salah Abdeslam. Je pense qu'il était sur les pistes, à chaque fois il le loupait de pas grand-chose, mais je pense quand même qu'il était un minimum localisé. Un minimum. C'est les empreintes, les empreintes à plusieurs endroits qui ont permis de remonter.
Bah c'est surtout en fait la perquisition de mardi qui là ils ont réussi à trouver des empreintes récentes.
Sarah nous dit ça ne changera rien, il y a encore combien des comme lui dans la nature. Sébastien nous dit j'ai envie de dire c'est un en moins, mais il y en a encore plein. C'est vrai que c'est le sentiment qui ressort, hein, encore. Et puis Cathy nous dit non, il y en a d'autres. C'est un parmi tant d'autres. Finalement, c'est les commentaires, hein, qui apparaissent les uns avec les autres. Non, ils en arrêtent un et il y en a encore 10 derrière. Et ça, c'est Didier qui nous a dit ça. On va pouvoir continuer d'en discuter avec vous.
Alors, je pense que c'est évident qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Hein. Parce que, bon, dans ce genre de guerre, effectivement, il faut être extrêmement prudent. Hein, ça, c'est évident. D'autres personnes, ben, effectivement, puisqu'on sait que sur place, il y a même des enfants qui sont très tôt préparés, hein, à devenir des enfants soldats. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et effectivement, on sait que on a une sorte de fameuse liste là de personnes qui étaient qui vraiment sensibilisées, qui étaient qui avaient des penchants de radicalisation qui sont fichés effectivement.
Et quand une bonne on partie
présente une
eux.
Liste impressionnante qui en fait sont dans toutes les professions, etc., etc. On veut pas être catastrophé trop tôt, mais c'est tout de même une réflexion collective qu'on doit avoir par rapport à la vie en société, à cet état des faits où en fait on dépasse le cadre simplement d'une religion et d'une culture qui s'opposent. Il y a quelque chose, une réflexion plus profonde à avoir par rapport à ce problème.
On va continuer de discuter de ces sujets. Vous allez continuer de réagir au standard, notamment à l'arrestation de Salah Abdeslam. Est-ce que ça vous rassure? 03 82 21 04 04. Vous avez l'occasion de vous exprimer, de prendre la parole sur le trentaine jusqu'à midi. Et puis sur la page Facebook officielle, l'Heure FM. Geronimo arrive. On écoute ensemble Posséder après le point sur l'inforoute et les offres d'emploi.
Pour ou contre? Tous les jours, 11h midi sur l'Heure FM.
Allez, il est 11h20 sur l'Heure FM, on est toujours là avec vous jusqu'à midi. On discute des sujets qui font l'actualité. Bérangère Thomas est avec nous, conseillère municipale à la ville de Metz. On le rappelle, on parle de Salah Abdeslam et de cette arrestation. Et cette question du jour, qu'on vous donne l'occasion de réagir, notamment au standard 03 82 21 04 04, Gaëtan.
L'arrestation de Salah Abdeslam vous rassure-t-elle?
Vous pouvez également venir nous rejoindre sur la page Facebook officielle L'Heure FM. Vous avez jusqu'à midi. midi pour réagir et nous en discutons bien entendu à l'antenne. Vous êtes déjà assez nombreux à réagir sur la page Facebook officielle Lore FM. Jérémy nous dit, ce qu'il faut se dire, c'est que ces gens-là sont comme les verrues. Tu en arraches une, il y en a 10 qui poussent. En gros, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce climat d'insécurité continue de peser. En même temps, il fallait bien se douter, c'est pas en ayant arrêté Salah Abdeslam que toute la misère du monde allait s'envoler et que tout le monde allait être rassuré en France. On va dire que c'est un point de départ, on peut le prendre comme ça à la rigueur.
Oh non, il faut pas dire point de départ, parce que ça veut dire que tout est encore à voir. Non, non, c'est un...
Ah bah, finalement, c'est dans les attentats en eux-mêmes, on en saura plus avec Salah Abdeslam, mais mis
à part
comment ça s'est passé, tout est encore à voir, parce qu'on ne sait pas d'où c'est venu exactement, comment ça s'est organisé, qui est-ce qui est encore dans l'ombre, je pense qu'on va essayer encore de remonter plus haut peut-être, et jusqu'en Syrie d'ailleurs.
Oui, bah de toute façon, il faut voir les conflits qui sont moyens au Proche-Orient. Effectivement, je dirais que c'est la clé de tout, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a une lutte fratricide entre l'Orient et l'Occident. Hein, à partir de là, les choses ne s'expliquent pas aussi facilement que ça. C'est quelque part. À partir du moment où il y a des instabilités dans un pays du monde, il y a fatalement des échos à l'international. Hein, mais je dirais qu'on espère qu'en fait les choses vont s'apaiser dans un sens où à partir du moment où on a des clés, hein, des conflits, on peut faire quelque chose, mais à partir du moment où la revendication, quelque part, quand on se plaint de quelque chose, c'est pour une chose qui est bien identifiée. Hein. Alors après, les raisons peuvent être diverses, mais en tout cas, je dirais que cette guerre en question, il y a quand même des motivations, et surtout, il y a un aspect de l'alimenter. Alors je dirais que la première des choses, c'est de garder son sang-froid, hein, d'être lucide par rapport à toutes ces stratégies de guerre et de terrorisme. Et c'est évident que l'homme de la rue, lui, ne peut pas faire grand-chose quelque part, puisqu'on n'en est tout de même pas au stade de la délation, hein, où il faut surveiller son voisin. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas à ce stade-là tout de même. L'effet de panique et de terrorisme, c'est effectivement pour faire des actions qui sont une menace morale sur les personnes et qui créent la terreur. Voilà. Donc effectivement, on est dans une pression, dans une crainte. C'est évident, quand je suis allée à Paris dernièrement, il y a quelque chose dans la confiance des gens qui est un peu tombé. Hein, quand vous prenez un métro qui est bondé avec des gens qui sont les uns contre les autres, les gens doivent prendre le métro parce que c'est le quotidien parisien, mais c'est évident qu'il y a une certaine amertume, quelque chose qui a cassé un petit peu la légèreté pour laquelle on pensait qu'on pouvait vivre à Paris. Quoi.
Et des regards méfiants?
Des regards méfiants, mais les gens qui sont quelque part, qui sont conscients. Hein, il y a une, les gens ont été blessés en eux-mêmes, hein, parce que bon, quand on sait que là, les personnes qui ont été touchées par ces attentats étaient des personnes, le vendredi soir, on va boire un verre entre amis à un bar, un spectacle, quand on voit un spectacle, c'est vraiment la pire des traîtrises, hein, donc il y a différentes choses comme ça qui sont quand même, qui ont été vécues, mal vécues, et surtout, personnellement, je sais que je connais quelqu'un qui a perdu 3 personnes de sa famille. C'est-à-dire, sa fille avait 2 amis. Le soir même, elles avaient décidé de sortir au Bataclan. Elles sont mortes toutes les 3, en laissant 2 orphelins, 3 veufs, en laissant 3 familles, en fait, qui sont touchées, quoi.
Complètement déchirées. On va continuer. Nos politiques ont réagi, que ce soit les politiques du gouvernement, mais les politiques également du paysage politique français. On aura l'occasion d'en reparler après avoir écouté le titre de Feder. Voici Blind sur Lore FM, et vous réagissez, vous le savez, à ce que vous entendez ici au standard et sur la page Facebook. C'est officiel, Lore FM.
Pour ou contre ? Tous les jours, 11h midi sur Lore FM.
Allez, il est 11h28 sur Lore FM. On est là installé avec vous jusqu'à midi, j'allais dire jusqu'à 10h. On va peut-être pas remonter le temps. Jusqu'à midi en tout cas, c'est sûr. Et je suis en train de regarder, je vous le rappelle. Vous pouvez venir réagir sur notre antenne, notamment grâce à Facebook. La page, c'est officiel Lore FM. Vous pouvez également le faire sur le standard 03 82 21 04 04. On rappelle cette question du jour, Gaëtan.
L'arrestation de Salah Abdeslam vous rassure-t-elle ?
Alors, les politiques réagissent également à cette arrestation très rapidement. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le Président de la République, qui était en plus de ça à Bruxelles ce jour-là, ont très très vite réagi. Et d'ailleurs, Bernard Cazeneuve annonce le déploiement de forces supplémentaires aux frontières.
Des forces complémentaires ont été ajoutées pour optimiser le contrôle aux frontières, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur samedi sur TF1. Près de 5000 policiers ont été mobilisés depuis le rétablissement des contrôles le 13 novembre, ce qui signifie que 6 millions de personnes ont été contrôlées et 10 2000 personnes empêchées d'entrer sur le territoire. C'est ce qu'a affirmé Bernard Cazeneuve.
Ça reste un nombre important.
Oui, et c'est considérable, 10 000 personnes. Parce que ça veut dire que dans ces 10 000 personnes, qui est qui, hein, il peut y avoir des personnes effectivement en migration obligée, comme on peut le voir actuellement. Hein, je parle bien de migration, et pas d'émigration. Parce que les migrations, c'est avant tout des mouvements de population obligés. Alors, les migrations se sont vues quand on était en période de famine, hein, quand il y avait des conflits, des pays qui n'arrivent plus à nourrir leur propre nation. Et immigration, c'est surtout pour des raisons de travail. Nous qui sommes en Moselle, on a connu des vagues d'immigrés, hein, parce que s'il y avait un problème après les guerres de main-d'œuvre, de travail, de personnes pour faire marcher les usines, les mines, etc. Donc, on est dans deux problématiques. Alors, sur ces 10 000 personnes, effectivement, il y a peut-être des personnes qui avaient des intentions mauvaises par rapport à nos compatriotes. Il y a d'autres personnes qui peuvent être aussi leurs compatriotes. Hein. Dans cette action terroriste, on n'épargne personne. Il n'y a pas de regard, je dirais, humain. Alors, la petite question, c'est après, effectivement, que deviennent ces 10 000 personnes? Où vont-elles? Vers quelle autre destination?
Il faut prendre en compte dans ces 10 000 personnes aussi, je pense, parce que la crainte de beaucoup d'États membres de l'Union européenne, c'était qu'au milieu de cette vague de migration, comme vous le dites, il y ait des personnes mal intentionnées. Et apparemment, d'après les dernières infos sur les checkpoints, notamment sur le secteur de la Grèce, par exemple, il y a maintenant 4 phases de contrôle qui sont organisées, qui réduisent considérablement le risque que au milieu de ces populations démunies et qui se sauvent de leur pays, on puisse avoir des... Et ça aussi, c'était important.
Oui, parce que c'est vraiment une entente internationale. Il y a quelque chose, quand on voit le flux immense de personnes qui ont tout de même, à pied pour certains, franchi des kilomètres, des milliers de kilomètres, il y a tout de même une question fondamentale à se poser par rapport à la source. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où il y a des conflits, il y a tout de même des choses qui sont plus du domaine du commun des mortels, je dirais, mais il y a tout de même une réflexion extrêmement... qui repose sur les politiques, hein, les politiques internationales, et on sait très bien que les guerres ne sont jamais voulues par les peuples. Hein, mais il y a toujours des conflits, des choses qui doivent se régler, je dirais, au niveau des gouvernances. Parce qu'on ne peut pas, admettre ça. On ne peut pas admettre qu'il y ait des morts inutiles.
Alors, on va revenir sur quelques déclarations politiques dans quelques secondes. Alors, il est 11h32, vous pouvez nous rejoindre, bien entendu, sur la page Facebook officielle Leur FM et sur le Snapchat. On écoute ensemble Yal qui arrive avec 100 miles juste après le point complet sur l'inforoute.
Pour ou contre? Tous les jours, 11h midi sur Leur FM.
Il est 11h38 sur Leur FM, toujours au cœur du pour ou contre de ce lundi matin avec Bérangère Thomas qui est avec nous, conseillère municipale à la ville de Metz. On vous rappelle cette question du jour, Gaëtan.
L'arrestation de Salah Abdeslam vous rassure-t-elle?
Vous pouvez réagir au standard 03 82 21 04 04 et puis également sur les réseaux sociaux et la page Facebook officielle Leur FM. Vous avez depuis maintenant 45 minutes la possibilité de laisser vos messages et vous êtes assez nombreux d'ailleurs à réagir à cette question du jour, je vais y arriver. Il y a Fabrice qui nous dit c'est bien, mais s'il a été dénoncé par un ami à lui, c'est qu'il devait gêner. Il n'est qu'un pion. Combien lui donne et attendent qu'une chose pour agir pareil. Je ne pense pas qu'il fait partie des têtes pensantes. Ce n'est que mon opinion et ce n'est qu'un pion. Je pense quand même que c'est une des têtes pensantes des attentats de Paris, en tout cas, Salah Abdeslam.
Oui, mais seulement il faut savoir quand même que ces personnes, dès qu'elles commettent l'acte, se dire pour elles, c'est qu'elles décèdent aussi. Donc ça veut dire aussi que c'est nos limites. Hein. Il y a en même temps, ce sont des sacrifiés quelque part, parce qu'ils savent très bien que l'acte commis, bien pour eux, ils perdent la vie aussi. Et donc quelque part, on peut dire bon pion, peut-être pion, mais je dirais avec un aspect encore plus fort, c'est qu'à partir du moment où le pion est manipulé, eh bien en fait après. Le pion disparaît, voilà.
Bah c'est ça, c'est un pion, mais par rapport à toute l'organisation, en fait. Effectivement, par rapport aux attentats, c'était une tête, mais par rapport à toute l'organisation.
Ah bah c'est toute une stratégie, voilà. Ça, c'est évident. Hein. Une stratégie quand même qui est bien pensée, malgré tout. On évoquait notamment hein, cet aspect de communautarisme, parce que les personnes se protègent les unes par rapport aux autres, c'est évident. Hein, je pense qu'en Belgique, il y a un nœud, une sorte de fourmilière.
C'est connu, oui.
Très connu, donc il y a quelque chose qui doit être fait vraiment au cœur des choses.
Même si depuis quelques mois, ils en ont arrêté pas mal.
Ah oui, mais c'est pour dire que les réseaux sont sont bien unis quelque part. Hein. Mmh. On peut imaginer, bon, je fais peut-être un parallèle, mais quand il y avait la résistance, donc on peut imaginer qu'il y a un réseau de résistance aussi quelque part hein, qui peut tout à fait bien s'imaginer. Hein.
Alors, on va regarder les réactions politiques. Je voudrais juste revenir notamment sur celle de Marine Le Pen. On va lire celle de Marine Le Pen, Gaëtan.
La France n'a pas pris véritablement la mesure du danger.
Et elle dit, elle se demande surtout combien sont-ils encore à être sur le territoire belge français à préparer des attentats sans avoir été détectés. C'est un peu la question de tous les hommes politiques aujourd'hui.
Oui, mais de toute façon, on sait très bien que c'est de longue date qu'il y avait déjà des choses qui avaient été dites hein, à force de ne pas contrôler, de ne pas limiter, de ne pas avoir cet aspect justement de frontière morale et physique. Hein. Quand une personne est sur un territoire, il faut savoir qu'elle doit agir en fonction des us et des coutumes. Hein. C'est une règle pour qu'en plus les gens soient tout de même dans une société qui soit cohérente. Alors effectivement, est-ce que ça, on peut donner un chiffre? Je pense que c'est un peu difficile. On peut pas donner de chiffres, mais par contre, qu'il y ait un aspect de prendre des mesures et d'avoir été conscient assez longtemps à la base, oui, parce que des attentats en France, eh bien, ça a été quand même depuis un certain nombre d'années qu'il y en a eu.
Alors, une autre réaction, c'est celle, j'ai trouvé très dure pour être honnête avec vous, celle de Marion Maréchal Le Pen, Gaëtan.
Si le Front National était au pouvoir, il n'y aurait probablement pas eu de 13 novembre.
C'est quand même glissant de s'engager sur ce terrain-là, non?
Oui, parce que...
Enfin, elle est jeune, voilà, c'est ce qu'on va dire, elle est jeune.
Non,
parce que,
non, c'est autre...
Est-ce que c'est vraiment très réfléchi? Je pense pas que ce soit réfléchi ce qu'elle a dit là.
C'est pas la question de la jeunesse, parce que la jeunesse, en fait, on est dans un cas de figure d'avoir des propos qui sont en phase, je dirais, avec quelque chose qui effectivement peut être quelque chose pour lequel on fait un point, c'est-à-dire qu'il y a des conclusions en fonction des états des lieux, en fonction de toute une histoire. L'immigration, quand on est dans ce cadre d'avoir une immigration, donc un mouvement de population de façon réellement économique, qui est contrôlé, je pense qu'il y a des choses qu'on sait. Quand on voit en France qu'il y a une immigration qui était surtout, quand on a des statistiques, hein, pour savoir les personnes qui demandent par exemple la nationalité française, pour très peu viennent pour des raisons de travail, mais pour beaucoup viennent pour des rapprochements de famille. Donc il y a une balance qui en fait ne s'est pas faite correctement par rapport à avoir exactement qui vit en France pour faire quoi?
Oui, mais de dire qu'il n'y aurait pas eu de 13 novembre, ça, la Deslam est français.
Ah bah, à la limite, peut-être que oui. Je veux dire, si on en est là à un stade comme ça d'analyse globale, oui, il n'y aurait certainement pas eu 13 novembre, comme il n'y aurait pas eu d'autres attentats dans des écoles juives, etc.
Mais pour quelle raison il n'aurait pas eu lieu ces attentats?
Ah bah,
c'est ça
parce
que j'aimerais comprendre, ces déclarations.
Oui, si on est à lire exactement, ça veut dire qu'on ne serait pas dans le cas de figure actuel où il y a une non-maîtrise d'immigration et de personnes qui culturellement ne venaient pas avec des mêmes valeurs culturelles, avec cette opposition Occident-Orient. Hein, donc, effectivement, si on prend cette question-là comme ça, effectivement, il n'y aurait jamais eu de 13 novembre comme il n'y aurait jamais eu d'autres attentats. Ça, c'est un point de vue. Si à la base, on avait limité, il n'y avait pas eu ce contexte actuel, fatalement. Mais le problème, c'est que l'histoire a malheureusement montré qu'avec une immigration non contrôlée depuis un certain nombre de dizaines d'années, ça a généré d'autres problématiques. Mais je dirais que le terrorisme, malgré tout, c'est une question internationale.
Mais quand même, cette déclaration, ça fait un peu super-héros en campagne électorale.
Oh non, pas super-héros, mais je dirais que des fois il y a des questions-réponses qui sont presque du tac au tac quand on dit pourquoi, comment, et après vous dire c'est quoi ça, et ben il y a des choses qui sont d'un effet sans cause en fait, ou d'une cause sans effet. Voilà, donc je dis effectivement dans une logique d'être s'il n'y a pas telle chose, fatalement il n'y aura pas une deuxième chose qui va se créer, mais de toute façon l'histoire malheureusement s'est passée autrement, donc c'est une logique hein, qui est une logique par rapport au fait d'avoir un état des lieux qui est né certainement d'une situation bien identifiée quelque part.
Mais je pense que pour elle se dit, si tout le monde avait été contrôlé, il n'y aurait pas eu ça. Sauf que ça, c'est la théorie. Entre la théorie et la pratique, c'est totalement différent.
Oui, clairement.
Ah ben, c'est tout à fait. Vous savez, par exemple, quand vous allez en Australie, quand vous allez au Canada, l'immigration, c'est quelque chose qui est extrêmement filtré. Hein, quand vous allez au Canada, vous devez avoir un membre de la famille, vous devez être sûr de travailler, etc., etc. Donc, il y a des pays quand même pour lesquels il y a des problématiques que nous on rencontre qui n'ont pas. Hein. Mais c'est parce qu'il y a déjà des conditions à la base qui ont fait qu'en sorte on ne puisse pas avoir, je dirais, des dérives comme on peut avoir connu et qu'on peut connaître.
Et pourtant, ça n'a pas empêché au Canada qu'il y ait une fusillade dans le Parlement.
Ou une prise d'otage à Sydney.
Non,
ou une prise d'otage à Sydney.
Voilà.
Voyez, comme quoi,
mais,
bon.
Mais c'est par exemple pour de peut-être d'autres raisons. Hein, en Amérique, on sait qu'il y a des fusillades, des gens qui règlent leur compte à la société. Il y a un autre terreau, mais c'est vrai qu'en ce moment, on entend des gens qui disent, qui se radicalisent. Mais il y a déjà eu avant. Le problème est là, c'est qu'on ne peut pas être aussi systématique quelque part.
On va continuer et terminer cette émission avec la dernière partie, juste après le tube des Coldplay qu'on écoute ensemble, Aim for the Weekend, et vous continuez de réagir sur la page Facebook officielle Lore FM à cette question du jour. L'arrestation de Salah Abdeslam vous rassure-t-elle?
Pour ou contre? Tous les jours, 11h midi sur Lore FM.
11h49 sur Lore FM, on est ensemble pour la dernière partie du pour ou contre, et on va s'intéresser au gouvernement qui veut renforcer la prévention de la radicalisation, toujours avec notre invité Bérangère Thomas qui est avec nous, conseillère municipale à la ville de Metz.
De nouvelles mesures seront probablement annoncées en fin d'après-midi par Bernard Cazeneuve. On explique toutefois que dans son entourage que personne n'a encore trouvé la recette miracle qui permettrait de détecter à temps le jeune pratiquant rigoriste de l'islam qui serait tenté par la radicalisation violente.
Et le premier des fléaux, c'est notamment les réseaux sociaux, avec Internet, Facebook. Là, c'est compliqué de lutter hein, quand même. Même si d'ailleurs, j'ai vu que Facebook, Google, etc., tout le monde s'est allié un petit peu pour faire en sorte de contrer un maximum sur le net. Mais ça reste quand même compliqué de contrôler Internet. Hein.
Alors, il faut savoir que les internautes eux-mêmes dénonçaient le fait que des mesures de censure n'aient pas été prises tout de suite. Certains, même sur Internet, donnaient la preuve que c'était possible de se connecter sur des sites en donnant des adresses, en faisant vraiment les liens, etc. Même, il était question aussi des fameux cartes prépayées, en fait, tous ces systèmes qui permettent de ne pas donner d'identité et de pouvoir louer des voitures, faire des retraits bancaires, etc., etc. Alors, les réseaux sociaux sont, puisque c'est tout de même un outil extrêmement moderne de la communication, c'est vrai que les réseaux sociaux tout de suite touchent des millions de personnes.
Ouais.
Et dans ces millions de personnes, eh bien, quand on véhicule certaines idées, certains propos, effectivement, on a un pourcentage plus grand de personnes qui peuvent être sensibles et ensuite avoir un contact qui se noue.
On peut également peut-être s'intéresser aussi à l'éducation nationale. Est-ce que au niveau de la cour d'école, on peut pas entendre des propos qui sont dits entre jeunes, entre ados, qui peuvent amener à être mal interprétés? J'imagine le gamin qui justement a été contacté, parce qu'en général on dit Internet, les sites, etc. C'est vrai. Maintenant, depuis d'ailleurs au passage de la loi Sarkozy, c'était juste après les attentats de Mera, parce que faut quand même parler d'attentats, hein, parce que même pour Mera c'était un attentat. Après les attentats de Mera, il avait bien dit hein, une apologie, une consultation,
voilà,
de site, et vous avez le droit. Donc ça a été un petit peu remis en cause. Maintenant, le Facebook, et c'est là où ils vont, hein, c'est sur ces réseaux sociaux-là, ils prennent contact directement avec les jeunes. Hein.
Alors c'est pour ça que je dirais que dans l'éducation nationale, on avait parlé justement avant tout de faire une priorité par rapport à une action pour la jeunesse, pour défendre la jeunesse, pour la protéger. Et a priori, dans l'acte, visiblement, il n'y a pas trop de choses qui sont faites. Mais enfin, pour revenir à cet aspect de la jeunesse, c'est évident que quand on est adolescent, on a toute une image personnelle à construire, une image de héros, de quelqu'un qui trouve sa place. Hein, je dirais que dans la vision actuelle qu'on a d'un collège, on a surtout tout un mélange d'origine qui parfois n'est pas facile à gérer au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de rivalités, il y a des problèmes parfois même de manière d'être, hein, de manière de se regarder, de se dire bonjour, de s'apostropher. Alors je dirais que la petite chose, c'est vraiment à l'ami, ce serait vraiment apprendre à être en convivialité, et vraiment tous ces usages qu'on pourrait bêtement appeler courtoisie, ça peut faire un peu désuet, mais c'est surtout apprendre à communiquer avec les mots, hein, que beaucoup d'adolescents malheureusement n'ont pas. Je dirais que on parle beaucoup de vivre ensemble, mais à partir du moment où il n'y a pas d'action pour vraiment apprendre le vivre ensemble et le partage, eh bien chacun est laissé à sa conviction et à sa manière personnelle. Alors c'est au quotidien, hein, quand on parle d'incivilité, d'incorrection, etc., etc., je dirais que malheureusement au quotidien, eh bien que fait-on? On ne fait pas grand-chose quand même. Alors, vous savez, dans le temps, on apprenait à bien parler, à bien se conduire. C'était ce qu'on appelait l'éducation, avec ces petites choses dures, de se tenir à table, d'avoir toutes ces choses extrêmement critiquées.
Mais justement, expliquez-moi comment on arrive à se retrouver avec le fils de médecin qui habite dans le 16e à Paris, le jeune qui habite à Nice, le jeune qui habite en Bretagne, c'est finalement, et qui se retrouve également avec le petit jeune de cité qui se radicalise, parce que ça se fait de quatre coins en France aujourd'hui. Vous avez sûrement entendu parler de ces témoignages. Comment ces gamins arrivent à se retrouver d'accord sur un même sujet, alors qu'ils peuvent venir d'horizons complètement différents et d'un équilibre familial qui est plutôt, plus ou moins, tout dépend de la situation, équilibré?
C'est des gamins, il faut savoir que c'est plus des gamins, c'est des adultes qui vont en partance être adultes, hein. Je veux dire, c'est de futurs adultes. Donc, dans cette constitution obligée de la personnalité, fatalement, il y a parfois des gens qui sont ce qu'on pourrait appeler aventuriers, hein, ou qui ont besoin d'une recherche et surtout de s'identifier à d'autres de leur génération aussi. Il faut savoir tout de même que la génération la génération actuelle, eh bien, connaissent tout de même toute une éducation où ils n'ont pas été épargnés à la violence, hein, par exemple par les films, par les jeux vidéo, par le fait de ne pas censurer dès l'enfance des visions de violence que vous avez à 20h au journal, pas de censure non plus à la radio par rapport à certains propos, aussi les chanteurs qui véhiculent énormément d'images de violence, des images de clips, des personnages qui hanchent, je dirais, les esprits des adolescents et des adolescentes. Alors,
c'est ce qu'on appelle la liberté aussi.
Alors oui, mais quelque part, faut savoir où la liberté peut s'arrêter pour ne pas justement enfreindre la liberté de quelqu'un de se construire honnêtement et sans être, un petit peu quelque part. On oblige une jeunesse à être d'une certaine manière. Pourquoi obliger une jeunesse à dire, bah, les jeunes maintenant, vous voyez?
Et comme,
il y a une liberté que tout jeune a de se construire sans avoir une oppression quelque part.
Comme donc dans cette citation que tu as lue, Gaëtan, eh bien, on cherche encore la recette miracle.
Oui, mais en même temps, la recette miracle, c'était une recette de simplicité. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un trouve une motivation que dans l'entourage, dans la société, on dit, bah tiens, la jeunesse peut s'engager à faire telle ou telle chose, on ne la dévalorise pas, on lui donne un avenir. C'est toute une mise en question de société à limite vieillissante qui donnait pas d'héritage à sa jeunesse. Or, on a vu qu'à partir du moment où la société songe à se renouveler, qu'on n'est pas là à avoir des actifs qui vont jusqu'à la dernière limite pour ne pas renouveler les départs à la retraite, par exemple. On dit qu'une jeunesse, ben, elle a un rôle de transmettre une culture, transmettre des biens. Et ben, à partir de là, jeunesse, elle se sent dans un tout. Hein, dans le temps, elle se sent un avenir. Donc, je dirais que notre jeunesse, quelque part, a senti qu'il y avait un égoïsme de la part de l'adulte pour aller dans n'importe quel chemin, quelque part. Et quand, moi, je pense que l'idée, c'est une société a besoin de gens avant tout qui s'y trouvent bien, qu'une fonction sociale, notamment par le travail. Hein, on sait très bien qu'une première des choses dans la Constitution, c'est que toute personne a droit à un travail, à un gîte, à un acte de société qui fait qu'il est important. Et bien, à partir du moment où on a trop hésité justement à transmettre aux générations futures notre société avec son patrimoine, avec son histoire, et bien fatalement, la jeunesse est en recherche.